Bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de La Chose Commune. On continue nos rencontres au Festival Génération Climat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Claire Pétraud. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour faire un petit peu ton CV, tu es créatrice de contenu, suivie par plus de 8000 personnes sur Instagram. Tu es la fondatrice de l'entreprise Les Pépites Vertes et plus récemment, tu es auteure du livre Je bosse pour la planète.
Oui, c'est ça.
Pour commencer cette interview, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à tes débuts. Quel a été le moment où la transition écologique elle est devenue centrale dans ton projet professionnel ?
Carrément. Merci pour ces questions. Le tout début pour moi, c'est repartir d'où je suis née. Je viens d'une petite ville dans le Maine-et-Loire qui s'appelle Segré. Mes parents sont profs, mes grands-parents étaient paysans, donc j'avais déjà quand même un peu cette espèce d'ancrage et de connexion à la nature dans mon enfance. Ensuite, moi, je me suis toujours beaucoup engagée pour la jeunesse parce que dès que j'étais révoltée, j'avais envie de créer des projets. Et donc, assez naturellement, j'ai eu envie de faire Sciences Po Paris. Et contre toute attente, j'ai été prise. Et donc, il y a 12 ans, je crois, je suis arrivée à Paris pour faire mes études. Et là, je me suis dit, ce diplôme, qu'est-ce que j'en ferais dans un monde en polycrise ? Et en fait, 2019-2018, c'était un peu le début de toutes les manifestations étudiantes. L'éveil de Greta Thunberg, les Fridays for Future, voilà, les vendredis pour le climat. Et moi, je me suis sentie très concernée à un endroit en particulier, justement, c'est le sujet du vivant et de l'effondrement de la biodiversité. Je me suis dit à quel moment une espèce parmi les je ne sais pas combien d'espèces qui existent sur cette terre a autant d'impact négatif sur beaucoup d'autres espèces. Et cette espèce qui a cet impact négatif, c'est la mienne, les humains, qui détruisent le vivant. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais avoir ce diplôme de cette grande école. Il faut que je m'engage. Et donc, j'ai commencé par des stages dans l'alimentation, dans la valorisation des biodéchets, dans l'événementiel pour soutenir l'environnement. Et puis, à un moment, le Covid m'a fait dire, va plus loin, t'as du temps pour inventer un projet. Et donc, j'ai eu l'idée des Pépites Vertes en 2020.
T'avais l'impression toi-même d'avoir un impact négatif quand t'as eu ce raisonnement,
oui,
tu t'es dit j'ai ces habitudes-là qui font que voilà ce que je fais impacte la planète.
Pendant très longtemps, j'ai culpabilisé d'être vivante en fait. L'entrée dans le secteur de l'écologie est très violente pour les personnes qui sont sensibles parce que tu réalises qu'à plein d'endroits tu as un impact négatif. Donc je voyais du plastique partout, je voyais des déchets partout par terre. Je suis devenue végétarienne et je trouvais que c'était passé, que j'aurais dû être végane. Et enfin, partout, à tous les endroits, je culpabilisais. J'achetais aucun vêtement et cette phase-là, elle a été un peu douloureuse pour moi et pour mes proches parce que, en fait, non seulement moi, je le vivais mal, mais en plus, je critiquais un peu les gens autour de moi au tout début. J'ai vite compris que ça allait pas marcher ouais. Et que c'est pas comme ça que j'allais embarquer. Donc j'ai fait mon chemin. Mais je pense qu'on est nombreux et nombreuses à devoir passer par cette phase un peu radicale qui revient à la racine et qui questionne en fait notre consommation et notre manière de vivre. Et puis après, il faut être bienveillant avec soi-même et composer un peu avec la réalité.
Tu parles du coup donc de la naissance des Pépites Vertes durant le Covid, juste après cette période voilà, de culpabilité. Comment est-ce que tu as fait pour transformer ce sentiment en quelque chose de positif ? Parce qu'avec le Covid, le renfermement sur soi-même, ça aurait pu être l'inverse. Ouais. Qu'est-ce qui du coup t'a motivé ?
Moi, en fait, les émotions, je les ressens très fort depuis que je suis toute petite. Et j'ai toujours compris que c'était un moteur, comme tu viens de le dire. Donc quand on a une émotion en nous, on a plusieurs options. Soit on prend de la colère, par exemple, et puis on se met en colère. Soit on prend la colère et on se dit « Waouh, c'est un fuel qui va me permettre de faire le mètre en plus, le kilomètre en plus. » Et du coup, je vais l'utiliser pour transformer ça. Donc moi, j'ai décidé ça un peu consciemment parce que c'est ma personnalité. Parce que depuis que j'ai 15 ans, dès qu'il y a un truc qui m'offusque, je me dis « Tiens, ça va me permettre de me mettre en mouvement. » Et donc, je me suis dit « Moi, je suis une personne créative. J'ai plein d'idées. J'adore les gens. Qu'est-ce que je fais de cette Claire qui est offusquée ?» Donc j'ai un peu fait la liste sur un carnet. J'ai fait un master communication à Sciences Po. Très bien, donc je sais raconter des histoires. J'aime la seconde main, ok, je vais sur le bon coin, j'achète un micro en seconde main. J'ai mon job, mais en parallèle, j'ai toujours 2-3 heures par jour de dispo, je lance un projet en parallèle de mon métier. Et donc, ça a été ça, ma manière, ça a été une obsession de l'action, parce que c'est l'action qui permet d'aller mieux. S'offusquer sur les réseaux sociaux, faire des stories, être pas content, pour moi, ça maintient dans l'inaction. Et du coup, faire des choses, c'est ça qui nous permet de reprendre du pouvoir.
Du coup, les réseaux sociaux, tu les vois vraiment plutôt comme un moyen de diffusion ou un vrai élément déclencheur de mouvement?
J'ai été longtemps dans l'un et l'autre, je sais pas trop te dire définitivement. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, ça a été un vecteur de diffusion de tous les profils. Donc juste pour présenter un petit peu les pépites vertes, je me suis réveillée en 2020 et je me suis dit, on ne connaît pas les métiers qui aident à faire du bien à l'environnement. On a l'impression que si on veut travailler dans l'écologie, on est obligé d'être éleveur de chèvres dans l'Arzac. Or, il y a plein d'autres options. Que ce soit qu'on soit comptable pour des entreprises responsables, qu'on soit dans l'installation des panneaux solaires, qu'on soit agricultrice bio, qu'on soit consultant pour réduire l'impact environnemental des entreprises, qu'on soit en soutien à une économie plus circulaire. Vraiment, je découvrais 1000 métiers et personne ne les connaissait. Donc, je me suis dit, bah, les réseaux sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est très bien pour critiquer, pour dire on y est passé, mais c'est aussi génial pour raconter des histoires. Donc, je l'ai utilisé comme ça au début. La seule chose que j'aimerais mettre en lumière maintenant que ça fait 5 ans que j'ai lancé les pépites, c'est qu'il ne faut pas que les réseaux sociaux, ce soit une fin en soi. Ça ne peut que être un moyen de raconter des histoires du réel. Et c'est très risqué de s'enfermer dans un projet complètement digital et numérique. Donc, il y a eu un moment où je suis devenue vraiment une influenceuse, une créatrice de contenu. Et c'est là que j'ai commencé, je trouve, à trop m'éloigner des gens et du monde réel. Et donc, j'ai eu mon petit craquage des réseaux. Je suis en mode, mais je suis obligée de faire ce que les plateformes et les algorithmes me demandent pour émerger. Je suis obligée de savoir comment faire mon accroche. Je suis obligée de regarder combien j'ai de likes. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde, quoi ? C'est pas pour ça que je me suis levée un matin du confinement. Et donc là, je suis en train de revenir un peu sur comment j'utilise les réseaux sociaux, pourquoi et comment je m'assure que le plus grand de mon temps, il n'est pas passé derrière un ordinateur à faire du montage, mais dans la vraie vie à rencontrer les vrais gens.
Ok. La plateforme des pépites vertes, elle s'adresse aux jeunes. Au niveau, toi, du coup, de ta communauté, est-ce que c'est un public qui est intéressant dans le sens où justement, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news? Pourquoi les jeunes et pourquoi pas aussi peut-être une population plus vieillissante? Oui. Est-ce que le dialogue, il est plus compliqué avec les anciennes générations par rapport à ces problèmes-là?
Non, le dialogue, il n'est pas plus compliqué, je trouve. C'est juste que moi, je suis partie de moi. Ma manière d'être juste dans ma manière d'entreprendre, c'est de me dire pourquoi je me sens légitime. J'avais 25 ans, donc je venais de sortir de mes études. Donc, c'était facile pour moi de dire à des personnes de 20 ans, regardez ce que je vois et regardez ce qui est possible. Je me sentais pas du tout légitime pour aller voir des personnes en réorientation qui ont des chemins de vie que je connais pas. Je savais même pas ce que c'était que avoir eu un premier job, des enfants, et puis se dire un matin, mais qu'est-ce que je fous, c'est écocidaire toute ma vie. Je me sentais vraiment pas du tout pertinente. Donc, j'ai toujours été vigilante à être à un endroit où je me dis, là, franchement, personne ne peut me dire quoi que ce soit. Et si les gens disent quelque chose, bah, je m'en fiche parce que je sais qui je suis. Donc ça, c'était ma première étape. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'on a délaissé la jeune génération à la sortie du Covid et pendant le Covid, et qu'on n'a pas en tête la détresse émotionnelle et psychologique dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. On dit que c'est une génération qui est trop hypersensible, qui est trop offusquée, qui est trop mèche, qui est trop truc. En fait, ils ont grandi avec un téléphone portable dans la main à genre 3, 4, 5, 10 ans, ils étaient déjà en train de se comparer à d'autres, de qui a quelle tenue, qui a combien de likes, qui a combien d'abonnés. Et ça, je pense qu'en tant que personne qui suis de la dernière génération à être née sans les smartphones, on peut même pas imaginer ce que ça constitue cognitivement et psychiquement chez les jeunes que d'avoir grandi là-dedans. Donc moi, j'ai énormément d'empathie pour cette nouvelle génération et j'ai eu envie d'utiliser les plateformes qui me permettent d'être en contact avec elles. Pour autant, je suis persuadée que c'est pas les jeunes qui vont changer le monde, et en plus de ça, on n'a pas de pouvoir. Donc, le sujet, c'est comment, en intergénérationnel, d'où qu'on soit, avec nos outils, nos ressources, on se met en mouvement, on se tape dans la main, on fait un pacte social intergénérationnel, on se dit, moi, j'ai de l'argent, toi, t'as des idées, moi, j'ai un poste de pouvoir, toi, t'as plein d'énergie. Voilà, c'est ça, le sujet. Et du coup, quand on s'approche des personnes plus seniors, plus âgées, voire les retraités, pour leur dire, vous avez aussi plein de pouvoir, venez, on invente ensemble, je pense que ça, c'est possible. Moi, je l'ai pas fait parce que je pouvais pas tout faire. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Ah tiens, on pourrait faire plus d'intergénérationnel », je suis sûre que c'est possible à partir du moment où on arrive le cœur grand ouvert et qu'on n'est pas dans le jugement de « Ok, boomer, les vieux ont pollué trop le monde », bah j'y crois pas. Et en même temps que les personnes plus âgées disent pas « Ah les jeunes, très drôle d'être écolo quand vous êtes toute la journée sur TikTok », stop en fait, enfin stop les clichés, parlons-nous, recréons des espaces de discussion.
La plateforme Les Pépites Vertes, elle se concentre surtout sur le monde du travail et pas forcément sur les gestes du quotidien, alors que c'était plutôt toi ce que tu connaissais, là où ton angoisse tu l'as ressenti. Pourquoi du coup se diriger vers le monde du travail ?
En fait, le travail occupe tellement de place dans nos vies aujourd'hui. C'est près de 70 000 heures, je crois, qu'on passe à travailler. Et moi, je suis tellement une bosseuse, en fait. Genre, j'aime bosser. Mes grands-parents étaient paysans, donc on a un rapport au travail. Mes parents étaient profs. Donc, pour moi, la carrière... De toute façon, c'était sûr que ça allait être quelque chose d'important dans ma vie. Donc encore une fois, c'était quelque chose d'évident pour moi. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que je voulais dire aux gens, vous n'êtes pas obligé d'être bénévole pour être utile. Vous pouvez gagner de l'argent en étant engagé pour les autres. Vous pouvez trouver des entreprises et des associations et des collectivités qui vous offrent un métier. Vous avez le droit d'espérer que de 9h à 17h, ce que vous fassiez ait du sens. Ça, c'est vraiment... Quand j'ai eu cette clairvoyance-là, j'étais en mode, waouh, mais pourquoi personne dit ça, etc. En fait, en toute transparence, 5 ans après, j'en reviens à un endroit. C'est que le travail, ça peut pas être tout. Et c'est très important de s'autoriser à avoir des moments de vie. Parfois, on aura besoin d'argent et on pourra pas, malheureusement, parce que le marché du travail est un peu bloqué en ce moment, trouver ce job aligné. Et il ne s'agirait pas de culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à le trouver. La priorité, c'est d'être en sécurité financière. Fin du monde versus fin du mois, moi, je n'ai pas envie de mener cette bataille-là.
Oui.
Et donc, je dirais aux gens aujourd'hui, trouvez un job. Une fois que vous avez trouvé un job et une manière de financer votre mode de vie, engagez-vous en parallèle si vous n'arrivez pas à le faire dans votre travail. Et c'est ce qui m'arrive en ce moment. Moi, j'essaye de m'engager bénévolement parce que, je ne sais pas, on ne peut pas toujours... C'est un peu... J'aime bien comparer. Des fois, on cherche son mec ou sa meuf et on veut qu'il soit parfait sur tous les trucs.
C'est impossible.
Et ben, c'est un peu pareil avec le travail. Il faut trouver un espace où on est bien entouré avec des gens qui sont sains et pas toxiques. Et puis, si on n'a pas le job parfait, et ben, il y a plein d'associations, que ce soit pour la solidarité, pour la préservation du vivant, qui existent et qu'on peut faire en parallèle de son travail. Je suis beaucoup moins convaincue qu'il n'y a qu'une seule manière qu'avant, bah, parce que je grandis tout simplement et que je découvre qu'il y a mille et une formes de s'engager et que ça dépend que de chacun de savoir où c'est le bon endroit.
Ton évolution personnelle, elle impacte l'évolution des pépites vertes ? Il y a des changements qui ont lieu ?
Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que les pépites vertes, au tout début, c'était une entreprise. Pendant 4 ans, dans l'entreprise, il y avait cette partie médiatique où j'allais faire des vidéos et des conférences pour présenter les métiers et une partie réseau parce que c'est pas seulement mettre en lumière les jeunes qui est important pour moi, c'est leur permettre de se connecter et de s'entraider. Parce que c'est bien de dire bravo les jeunes de s'engager, etc. En vrai, c'est dur d'avoir un job engagé. C'est dur parce qu'on est souvent isolé, on est souvent le relou de la boîte et on n'a pas énormément d'impact. On est très formé, très informé. On est au courant de tous les enjeux sur l'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources. Mais on n'a pas la main sur la feuille de route des stratégies des entreprises. Donc, c'est un peu rude. Donc, j'avais vraiment à cœur de créer un espace de rencontre pour ces personnes-là. Et à un moment, j'ai compris que j'étais un peu arrivée à la fin d'un cycle et d'une boucle sur le projet de mon entreprise, mais que c'était pas possible d'abandonner la partie réseau parce que ça ne devait pas dépendre de moi et de mon énergie. Et donc, j'ai écrit à plusieurs personnes qui avaient participé au programme des Pépites Vertes pour leur dire « Et si on lançait une asso avec une gouvernance qui a vocation à tourner tous les 2 ans parce qu'on veut un projet jeune et que nous, on vieillit ?» Et que du coup, il faut inventer, un peu comme dans les associations jeunesse, une possibilité d'avoir des élections tous les 2-3 ans pour renouveler et s'assurer de la jeunesse de la gouvernance. Et 15 personnes m'ont dit carrément, c'est hyper malin, on y va. Et donc avec 15 cofondateurs et cofondatrices, on a créé le Club des Pépites, qui est l'association un peu petite sœur de ce grand projet des Pépites Vertes et qui aujourd'hui tourne avec plus de 12 antennes dans toute la France, 300 membres adhérents et puis des événements qui ont lieu grâce à, pour le coup, une énergie bénévole qui ne dépend pas d'une seule personne, mais d'un groupe de personnes. Et ça, c'est chouette, parce que c'est la preuve que les projets peuvent durer dans le temps, même quand les fondateurs et fondatrices s'en vont.
Ça montre aussi, du coup, toute cette transition est un process collectif.
Ouais, exactement. Quand on est une fondatrice solo comme moi, on est obligé assez vite de penser à l'héritage et de pas tout mettre sur les épaules d'une seule personne parce que c'est un leadership qui est pas sain quand on a une seule personne qui porte tout. Donc j'ai eu des salariés, j'ai eu des alternants. Là, j'ai décidé de plutôt passer sur un projet associatif. En gros, pour moi, les modalités d'action et le comment ça s'organise, ça n'a jamais été trop un sujet. Mon obsession, ça a été le pourquoi. Je veux maintenir cet espace de rencontre, que ce soit une asso, une boîte, ça ne m'importait pas beaucoup. Quoi.
Les missions et les enjeux, ils sont différents du coup entre la plateforme Les Pépites Vertes et le club des pépites, l'association ?
Oui, parce que sur la plateforme de médias, il y avait une mission à la fois, un, d'inspirer les jeunes, de dire « regardez tout ce qu'on peut faire », et deux, de mettre en lumière ces personnes qui s'engagent. Pourquoi ? Parce que quand on est chargé de mission dans une entreprise et qu'on porte des sujets de transition écologique, on n'est pas aussi visible que le fondateur ou la fondatrice ou le patron ou la patronne. Et c'est normal parce que voilà, c'est comme ça que le monde est fait aujourd'hui, mais moi j'avais encore à cœur de mettre en lumière ceux qui travaillent dans l'ombre. Et ça, c'était sur la partie média. Je continue à le faire sur mon compte perso Claire Pétraud, qui est un compte où je continue à mettre en lumière des gens. Par contre, la mission du club, elle est moins de mettre en lumière les gens que de s'assurer de créer un maillage territorial de gens qui s'engagent. Et là où on fait notre point avec l'intergénérationnel, c'est que nous, ok, on est l'association des jeunes professionnels de l'écologie en France, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en recherche de partenariat avec d'autres associations, d'autres âges, d'autres structures pour s'assurer de faire le lien. D'un côté, c'est important d'avoir une bulle où on est entre nous pour se motiver, parce que quand on est jeune, on ne nous écoute pas trop. Mais de l'autre, c'est vraiment une exigence que doit avoir cette association, c'est de rester en contact avec d'autres structures. Et donc, la mission du club, c'est de faire du réseau, un peu comme il y a des associations de jeunes boulangers de France, oui, ou de jeunes agriculteurs. Et ben, nous, on est l'association des jeunes professionnels de l'écologie.
Sur la plateforme, il y a du coup toute cette partie orientation au niveau des jeunes, montrer des métiers, aider. Il y avait une place à prendre quand tu as créé cette plateforme.
Oui, parce que en fait, on a beaucoup. Il y a eu des médias qu'on puisse créer sur le digital, sur tous les métiers d'avenir, sur l'IA. Il y a ça qui se crée en ce moment, mais il n'y avait pas l'endroit pour dire bah, c'est quoi les métiers de l'écologie en fait. Et donc l'étudiant par exemple, qui est un média qui parle d'orientation et d'insertion professionnelle, et ben ils étaient contents de pouvoir mettre en lumière certaines pépites vertes sur leurs médias. Tous les forums de l'emploi, etc., bah, c'était important pour eux d'avoir une espèce de base de données pour nous inviter et mettre en lumière ces profils-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, il y a eu d'autres plateformes qui ont pu émerger. Je pense à mes amis Arthur Gosset et Hélène Cloître qui ont sorti récemment un super documentaire qui s'appelle Les Éclaireurs, qui présente pendant tout un docu des profils de gens qui, eux aussi, transforment à l'intérieur leurs organisations, que ce soit des vendeurs chez Leroy Merlin ou des gendarmes, voilà. Donc, en fait, maintenant, l'idée, elle appartient un peu à tout le monde que de dire « montrer la diversité des métiers et ne montrez pas que les patrons, patronnes, mettez en lumière les talents ». J'ai eu l'idée, voilà, maintenant c'est vraiment possible pour plein d'autres personnes de reprendre le flambeau. Il y a aussi une jeune qui a lancé un projet sur ce sujet de métier, de sens, et qui recommence un peu à zéro ce que moi j'avais inventé. Bah, c'est trop cool, et elle est jeune, donc voilà, moi je suis contente qu'il y en ait d'autres, parce que ça sert à rien qu'il n'y ait qu'une seule structure qui le oui. fasse.
Tu trouves qu'il y a un manque d'offres de formation au niveau de la transition écologique ? Et est-ce que tu l'as ressenti dans ton parcours quand tu étais à Sciences Po ?
Alors, moi, j'ai fait mes études il y a 10 ans quand même. J'ai diplômé il y a, je sais pas, 7 ans peut-être. Donc, c'est un peu différent comment moi c'était et maintenant. Sincèrement, je trouve aujourd'hui que les écoles et les formations et les OPCO et vraiment l'ensemble des acteurs de la formation initiale et puis de la formation continue intègrent les enjeux de la transition écologique. Même dans les CFA, moi j'ai travaillé beaucoup avec l'opérateur de compétences du commerce et en fait dans le commerce c'est un sujet central. Comment, un, on réduit la facture énergétique de nos commerces, deux, on réduit les déchets, trois, on s'assure que nos salariés se sentent impliqués si on a un projet de transformation. Et donc bah, moi j'ai rencontré des gens dans des CFA qui forment à des formations courtes les jeunes sur ces sujets-là. Donc je suis assez optimiste. À Sciences Po, bah, moi oui c'est vrai que j'ai été juste, entre guillemets, juste formée à la communication. Donc j'ai dû apprendre par moi-même, voire faire des formations en parallèle pour m'assurer de bien comprendre les enjeux, parce qu'il y a une réalité scientifique derrière les problématiques environnementales et qu'il ne s'agit pas de s'inventer comme ça du jour au lendemain parce qu'on a lu un bouquin expert de l'écologie. Et enfin, il y a des écoles spécialisées et des masters spécialisés qui se créent de plus en plus. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir ou d'enseigner ou de travailler avec des écoles comme Ecopia, qui est une école de la RSE, la Regen School qui forme les élèves à l'approche régénérative pour que les modèles d'affaires soient plus respectueux du vivant. Donc ces écoles-là, elles existent. Et de toute façon, sincèrement, moi je crois que si les élèves et les étudiants d'aujourd'hui n'intègrent pas les problématiques environnementales dans leur manière de penser leur métier, tout comme ils peuvent passer à côté de quelque chose en n'étant pas un minimum sensibilisés à l'intelligence artificielle, ils vont passer à côté de quelque chose s'ils ne sont pas un minimum sensibilisés aux problématiques environnementales, parce qu'on rentre dans un monde différent, un monde qui fait face aux limites planétaires et des modèles économiques et des modèles de société qui ne pourront plus être les mêmes. Donc j'invite tout le monde à, même juste stratégiquement pour l'avenir de sa carrière, un minimum à se questionner sur les compétences de demain.
Ça, c'est sur le personnel, mais du coup, est-ce que tu trouves que les institutions publiques, avec toute la partie éducation, donc des lycées, les collèges, etc., ils font assez justement sur ces questions pour mettre en valeur ces sujets auprès des élèves ?
Écoute, moi, je n'ai pas été en contact direct avec les collèges et les lycées. Par contre, j'ai rencontré un des enseignants passionnés et passionnants qui était toujours à la recherche de solutions pour faire passer des enjeux, enfin former aux enjeux écologiques. Alors évidemment, les enseignants de SVT, mais même les enseignants d'anglais vont pouvoir prendre des sujets d'environnement pour faire travailler l'anglais. Donc moi, qui suis fille de prof et qui sais le travail que c'est, déjà j'aimerais dire bravo à toutes les personnes qui cherchent à mobiliser sur ça. De plus en plus, il y a des ressources pédagogiques qui existent. J'ai des amis qui ont tout un projet de traversée de l'Atlantique à la nage, de tour de la Guadeloupe à la nage, et qui ont des kits pédagogiques qui sont mis à disposition de petits élèves en maternelle et en primaire. Donc il y a des initiatives à droite à gauche. Après, plus globalement, est-ce que par exemple le rôle des éco-délégués qui était une super idée a été porté jusqu'au bout? Ça, je suis pas dans les lycées pour le dire. Et est-ce que les lycéens et lycéennes sont assez formés aux enjeux et les programmes pédagogiques sont assez à jour? Pareil, je ne suis pas la bonne personne pour le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'assos qui travaillent sur ce sujet-là et que les enjeux seraient vraiment de pouvoir construire les maquettes pédagogiques avec les acteurs de la société civile. Mais c'est un peu facile pour moi de dire qu'il faudrait refaire les programmes. Enfin, tout le monde le dit. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Je pense même qu'au-delà des programmes et de la formation aux enjeux environnementaux, c'est une manière d'apprendre qui est en train d'être réinventée, parce que je suis enseignante dans deux classes, dans deux écoles, je vois bien que les élèves ont besoin de nouvelles méthodes d'apprentissage et que, en tant qu'acteur de la pédagogie, on va être obligé de s'adapter. Ça ne sert plus à rien de dire « moi, à leur époque, j'écoutais beaucoup plus. Moi, à leur époque, j'étais plus concentrée. » En fait, le monde change. Donc maintenant, est-ce que les acteurs de l'éducation sauront rapidement se transformer alors que les institutionnels, c'est toujours très lent? Non, je ne pense pas, mais c'est évident que ça doit être au cœur, que ce soit sur les élections municipales et de ce qui peut être porté politiquement à l'échelle des collèges et des petites écoles, que ce soit aux échéances des prochaines élections présidentielles. L'éducation, c'est stratégique.
T'es enseignante, il y a des relations avec les universités au niveau de la plateforme qui sont proposées. T'as des retours, justement, du coup, de ces jeunes, des retours positifs par rapport à ce que tu proposes
Ouais, les plus grands retours que j'ai reçus jusqu'ici, c'est merci de montrer que d'autres manières de réussir existent. Pourquoi ? Parce que c'est quoi aujourd'hui le succès quand on a 15 ans, enfin, c'est quoi les objectifs, c'est quoi le projet des jeunes aujourd'hui? Pour beaucoup, ça va être de devenir influenceur, c'est une réalité, hein. c'est dans les sondages, c'est quelque chose qui ressort. Pour d'autres, ça va être bien gagner sa vie, et normal, je veux dire, on ne paye pas son loyer avec du bénévolat. mais pour d'autres, c'est contribuer, quoi, me sentir utile. Et qui, aujourd'hui, médiatiquement, met en lumière les alternatives au succès? Pas beaucoup de gens. Donc, le plus gros impact, c'est merci de me montrer que je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, d'avoir envie de contribuer à ce que ce monde soit moins zinzin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on m'a beaucoup remontée, et c'est, je pense, la plus grande de mes fiertés, c'est merci de me donner confiance en moi. Parce que dans mes programmes d'accompagnement, dans mes cours, ou dans la manière que je donne la parole aux gens, j'essaie de faire comprendre que tout le monde est légitime. C'est pas grave si t'es pas surformé à la biodiversité marine. C'est pas grave si t'as pas un bac plus 12 sur ces sujets-là. À partir du moment où tu pars de qui tu es, de tes forces, de ton réseau, de où tu es ancré, de qui peut t'aider. Tout est possible si tu t'autorises à donner le temps. Donc moi, c'est ça mon plus grand message. C'est quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, sincèrement, enfin, c'est hyper dur d'ouvrir le matin Instagram, d'ouvrir Le Monde, d'ouvrir n'importe quel média sans se dire mais qu'est-ce qui se passe, genre des gens meurent partout, enfin à quoi je sers, je suis une goutte d'eau. Bah super, soyons 1000 gouttes d'eau, 1000 milliards de gouttes d'eau dans un océan de solidarité et de durabilité. Et c'est ça que les gens ils me disent en général, c'est merci de nous rappeler que ça vaut le coup en fait.
Donc on a parlé un petit peu de l'évolution des institutions. Au niveau des entreprises, est-ce que toi t'as été témoin justement d'un nouvel engagement?
Alors, ce qui s'est passé avec les entreprises, c'est que sortie de Covid, on a eu un vrai appel d'air. Pour le coup, les scientifiques font un travail de fond depuis vraiment des dizaines d'années, mais il y a eu une réalisation que ça devait devenir stratégique au cœur des entreprises. Il y a eu la loi Pacte et les entreprises qui se sont dotées de plus en plus d'une mission. Il y a eu la loi Climat et Résilience. Et en gros, il y a eu le réglementaire qui est venu soutenir une intuition des dirigeants et des dirigeantes à forcément mettre plus de stratégies d'impact au cœur de leur feuille d'action. Pour autant, déjà, il y a eu des problématiques, encore une fois, réglementaires, puisqu'on a eu un recul avec la CSRD qui était donc censée inviter les entreprises à mieux compter dans les rapports extra-financiers les impacts environnementaux dans leur manière de dire « nous sommes performantes ». C'est-à-dire qu'il y avait une volonté à l'échelle de l'Europe de dire aux entreprises « faites vos rapports non plus seulement sur votre rentabilité, mais aussi sur la réduction de votre impact négatif ». Ça a été politiquement et médiatiquement un peu en recul. Donc ça a impacté un écosystème de start-up, d'acteurs du conseil qui venaient pousser parce qu'on avait de l'air, un appel d'air. Et ça a été douloureux pour les personnes qui étaient dans l'écosystème de se dire « waouh, on y était presque ». Pour autant, ceux que je vois maintenir le cap sont les dirigeants et les dirigeantes qui ont bien conscience que mettre l'environnement au cœur de la feuille de route, c'est pas juste bien pour la planète, c'est juste stratégiquement malin d'être durable, résilient et robuste. Et il existe, en vrai, des entreprises qui s'engagent sur ces sujets-là. Moi, je suis aussi très proche du mouvement Impact France, qui est donc une fédération patronale d'entreprises dans toute la France qui s'engagent sur ça, que ce soit sur l'industrie du textile, avec des entreprises comme 1083, le slip français, Loom, qui vraiment s'assure de proposer des produits de qualité et bien produits, que ce soit sur l'alimentaire, avec de plus en plus d'initiatives pour végétaliser l'alimentation, et que ce soit dans les grands groupes aussi avec des vrais comités de mission qui se disent mais comment on réduit, ça existe. Pour autant, oui, il y a du greenwashing à droite à gauche, et oui, il y a eu un moment où il suffisait de mettre du vert partout pour faire croire qu'on était écolo. C'est pour ça que c'est dur pour les citoyens de s'y retrouver, c'est pour ça que c'est dur pour les citoyens de croire que les entreprises peuvent s'engager dans une démarche environnementale. Et que mon conseil pour les personnes, et je le dis dans mon bouquin, qui veulent savoir s'il y a une vraie démarche ou pas, c'est de poser des questions à toutes les échelles de la boîte, et puis de s'autoriser à essayer quoi. On peut tester, voir si les gens, on prend un job et on se dit tiens, peut-être que si au bout de 6 mois, on se rend compte que c'est que du mensonge, et ben on a le droit de se tromper.
Ça allait être justement ma prochaine question au niveau de comment différencier en fait les discours réels des discours opportunistes. Tu le vois autant sur des grandes entreprises que des petites entreprises?
Déjà, j'aimerais juste ramener la complexité de transformer les modèles d'affaires aujourd'hui, c'est vraiment pas évident. Donc, il y a des organismes qui se créent, comme par exemple la Convention des entreprises pour le climat, qui vont vraiment accompagner les dirigeants et les dirigeantes dans un parcours de transformation. Ce qui est important à avoir en tête pour les personnes qui nous écoutent, c'est que transformer un modèle d'affaires qui existe depuis 20-30 ans, c'est aussi apprendre aux dirigeants à se transformer eux-mêmes. Parce que, encore une fois, ils sortent d'école où on leur a appris une chose, et on vit dans un modèle de société où on nous apprend une chose, c'est l'objectif, c'est de faire plus de profit. L'objectif, c'est la croissance à tout prix. Bon, bah quand c'est ça le logiciel de pensée de tout un monde, alors pas tout un monde parce qu'il existe évidemment, c'est peut-être plutôt un monde occidental, hein. Oui. Il existe des sociétés où c'est pas la logique, mais on y vient un peu toutes et tous parce que c'est ça soi-disant le progrès. C'est pas évident de détricoter ce logiciel. Donc primo, c'est est-ce que le dirigeant ou la dirigeante a fait l'exercice de changer, de mise à jour iOS, de mise à jour du téléphone de la tête quoi, de je dois changer ma manière d'imaginer la durabilité de mon modèle. Et ça existe. Donc, comment faire la différence? Ben, peut-être je me répète un peu, mais regardez s'il y a des vraies volontés à la tête, aux têtes des dirigeants. Regardez dans quelle mesure les espaces de transformation, comme les départements de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, sont investis. Est-ce qu'ils sont mis un peu au placard sur un truc à côté de la com ou est-ce qu'ils sont vraiment mis à côté de fonctions support stratégiques? Et puis parler aux gens, quoi. Moi, je suis personne pour dire ici c'est bien, ici c'est pas bien. Le but, c'est de poser des questions et d'essayer. Donc, c'est pas évident. C'est pour ça que je suis toujours un peu... J'essaie de mettre de la nuance dans ce que je raconte parce qu'on doit attendre beaucoup des entreprises parce qu'elles ont un impact énorme. Pour autant, malheureusement, ça va pas aussi vite qu'on aimerait. Et après, dans les petites boîtes, pour le coup, c'est assez facile, je pense, de sentir si les petites entreprises et les petites start-up sont fausses dans leurs intentions ou pas. Mais la seule manière, encore une fois, c'est d'essayer, quoi.
Début 2025, quand tu faisais la promotion de ton livre, j'ai du coup regardé plusieurs vidéos YouTube, interviews. Tu avais dit que le 2024 avait été impacté par la crise au niveau de la transition écologique. Tu étais optimiste pour 2025 avec du recul. Oh, wow, du coup,
ça.
Mon Dieu. Qu'est-ce que t'en penses? Comment s'est passée cette année 2025?
Alors déjà, j'adore cette phrase. Peut-être je l'avais déjà dite. Gardons le pessimisme pour les jours meilleurs. Vraiment, quand on est en état comme ça de multicrise, je crois que l'optimisme est une espèce de compétences sur laquelle les personnes qui ont la parole comme moi ou qui fédèrent ont une espèce de responsabilité à dire en fait les gars on est dans une barque commune là, on est obligé de croire qu'à un moment on va arriver à notre cap parce que sinon on arrête de ramer. Donc ça c'est la première chose. Pour autant, être optimiste ça veut pas dire être naïf et ça veut pas dire se déconnecter de ses émotions et de la situation. Donc savoir s'écouter, ralentir et se dire parfois waouh, c'était complicado. Ça aussi, c'est une compétence qu'on doit travailler quand on est en posture de leadership. Donc là, je vais faire la réponse et je vais dire waouh, c'était complicado. C'était très compliqué pour beaucoup, beaucoup de personnes, d'entreprises qui ont fermé, de start-up qui n'ont pas réussi à lever les fonds. Il y a eu plein d'enjeux différents. Il y a eu évidemment une actualité géopolitique, un impact de la guerre en Ukraine sur l'énergie, le prix de l'énergie, le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, l'IA qui est arrivée mais comme une vague qui fait qu'elle a attiré à elle énormément de financement et donc que nous avec nos enjeux de sobriété et de durabilité de résilience on était un peu démodés quoi, donc ça a été douloureux pour beaucoup de personnes, psychologiquement aussi je pense pour les personnes qui s'engageaient. Pour autant franchement la vie c'est que des cycles et des crises et j'en parlais avec la fondatrice d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Caroline Renoux, le cabinet s'appelle Burdeo, et elle me disait « Mais en fait, nous, les acteurs de la durabilité qui sommes sur le marché du travail depuis les années 2010, pardon, mais ça fait genre 20 ans, 15 ans qu'on est à contre-courant. Donc on était contents d'avoir 3 ans avec du vent dans le dos, mais là on est juste de retour à notre croisade, entre guillemets, normale qui est... En fait, on propose un modèle d'après, donc c'est normal que ce soit difficile. Là où ça n'est pas normal, c'est si ça met en péril la santé mentale et physique des gens et des acteurs du changement. Ça, c'est pas normal. Pour le reste, il faut maintenir le cap parce que dans la tempête, dans le chaos, il est important de rester concentré sur les objectifs et les valeurs. Et moi, je reste une optimiste qui rêve d'un monde où la solidarité, l'entraide, le lien et puis le respect du vivant dans toutes ses formes est une société qui existe. Et je pense que localement, et c'est pour ça que j'adore aller dans plein de villes de France, il y a à l'échelle des territoires tout vraiment les ingrédients pour que ça fonctionne. La Croix faisait sa une la semaine dernière sur pourquoi les Françaises et les Français sont encore en lien. Les médias surcommuniquent sur tout ce qui nous arrive de mal et ça développe chez nous notre négativité qui fait qu'on voit partout le mal. Mais si on s'entraîne un petit peu notre cerveau à voir les choses chouettes, à dire bonjour à la boulangère et comment ça va, moi je suis persuadée que ça va vraiment permettre à maintenir le lien. Et c'est ça le seul sujet dans les crises comme ça, en fait. Le problème, c'est que ça polarise, qu'on n'ose même plus s'écouter, qu'on se déteste alors qu'on ne se connaît pas et que si on crée des espaces de discussion, eh bien, j'ai l'espoir, peut-être naïf, mais je m'en fiche d'être naïf, parce que si je ne suis pas naïf, qui le sera, de s'assurer qu'on va maintenir le collectif et le projet de société.
Donc, malgré ce début d'année compliqué pour 2026, on reste sur de l'optimisme.
Oui, parce que, en fait, pour moi, 2025, ça a été vraiment dur, parce que ça a été l'année où j'ai mis fin au projet des pépites tel qu'il existait pour permettre de créer le nouveau projet des pépites qui existe sans moi. Donc c'était vraiment une fin de cycle un peu waouh, avec beaucoup de déception et de tristesse, même si c'était la chose juste, c'était dur. Et plus je trouve que plus on vit et on s'autorise à vivre les émotions douloureuses, plus en fait elles nous traversent et on les laisse partir. Et on les laisse pas coincer dans notre corps en mode non, pas de soucis, tout va bien. Mais c'est faux, tout va pas bien. Enfin non, c'est terrible. Et en même temps, regardez la condition des femmes aujourd'hui, regardez la capacité qu'on a à dénoncer les violences sexistes et sexuelles, regardez la possibilité pour plein de personnes pour qui c'était pas possible avant d'accéder à des postes, regardez notre capacité à dénoncer le racisme. Évidemment, il est encore présent, mais il y a quand même des choses qui ne se disent plus. Voilà, moi j'aime bien regarder les choses qui vont mieux, et pour ça c'est intéressant de parler beaucoup avec mes grands-parents. Évidemment, à l'époque de mes grands-parents, il y avait peut-être moins de conflits brutaux comme ça, parce qu'ils étaient dans un âge d'or. Mais pour autant, est-ce que ma grand-mère avait accès autant que moi à tous les droits que j'ai aujourd'hui ? La réponse est non, et ça va très vite. Donc voilà, rappelons-nous quand même qu'il y a des choses qui se fonctionnent bien, et puis soyons nous-mêmes, responsables de l'optimisme et du lien qu'on espère dans le monde, quoi.
Tu viens de parler du passé avec tes grands-parents. Le monde de demain, dont on parle beaucoup dans la transition écologique, il ressemble à quoi selon toi ?
Il y a plusieurs scénarios qui avaient été écrits par l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, qui est une super agence, même si certains essaient de nous faire croire le contraire. Et il y avait des scénarios hyper intéressants qui expliquaient à quoi ça ressemblerait le monde en 2030 si on atteignait nos objectifs de neutralité carbone et donc de réduction de l'impact en termes de carbone. Et moi, j'étais très touchée par le scénario 2 qui s'appelait coopération territoriale. Le scénario 2 de coopération territoriale, il nous explique à quel point le monde de demain, plus durable, eh bien, il est tout simplement plus ancré. Et à l'échelle de régions, que certains appellent des biorégions, on soutient la résilience alimentaire, le financement d'agriculteurs et d'agricultrices qui travaillent de manière plus régénérative pour les sols, l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire pivoter une économie où on n'est plus tout le temps à extraire, vendre, jeter, mais à réinsérer en fait dans le circuit des vêtements qu'on n'a plus besoin, des vélos qu'on a juste à réparer, etc. Sur le sujet de la mobilité, évidemment, plus de partage. On se reconnecte un peu à des solutions de partage de covoiturage. On facilite l'accès à la mobilité des bus, des trains. Et puis, ouais, les espaces de cohésion, de rencontre ont lieu. On redonne du sens aux associations. Moi, quand j'étais plus jeune, être engagée dans une asso, c'était la meilleure manière de rencontrer des amis, etc. Donc, on recrée des espaces de forum où les gens peuvent se discuter. Et du coup, en fait, ce monde, il n'est pas utopiste en mode hyper radical, quoi. C'est juste des bouts de vie de ce qui existe déjà. Et il est centré autour d'une chose, c'est le bien-être. Le bien-être, la santé. Manger mieux, c'est être en bonne santé, c'est aller moins chez le médecin. Et donc, en fait, c'est réduire les coûts que de réduire les problèmes de santé. Et il est juste pensé à moyen terme et en coopération. Donc voilà, je pense qu'elle existe déjà dans beaucoup de collectivités locales et qu'après, c'est notre responsabilité d'acteur du changement de montrer à voir que le monde de demain, c'est juste le monde du bon sens et de la bonne santé.
Pour finir cette interview, j'aimerais bien qu'on revienne du coup sur le partage, puisque tu as vadrouillé sur les routes de France pendant 5 ans, donc à la rencontre de plusieurs acteurs dans les métiers de l'environnement durable. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a été marquante, un métier qui t'a surpris ? Je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais peut-être un plus que d'autres.
Moi, j'avais été très touchée par le parcours de Shaïma, qui était diplômée d'une école d'agronomie, ingénieur agro, et qui avait absolument à cœur de trouver un métier engagé non seulement pour l'écologie, mais aussi pour la justice sociale. Donc le cahier des charges est élevé. Et elle a trouvé à Laval une fiche de poste où sa mission sur 3-4 ans, c'était de supprimer le plastique dans les cantines des petits élèves de la ville de Laval. Et elle avait le pragmatisme de l'ingénieur et en même temps le cœur vraiment de la personne très sensible et très déterminée sur ce que je disais juste avant. En fait, l'écologie, c'est la santé. Et si avec, et elle travaillait hyper bien avec les cantinières, elle travaillait avec les élus, elle s'assurait d'être au contact des petits élèves pour voir comment est-ce que, en fonction des bacs en inox qu'elle avait trouvé. Et je m'étais dit quand j'avais fait cette vidéo, mais c'est tellement du bon sens incarné en un métier. Genre, ton métier, c'est quoi ? Réduire le plastique dans les cantines. Et t'es payé pour ça. Et ça, je m'étais dit, waouh, faut vraiment qu'on raconte aux gens que c'est ça, mon écologie. C'est pas interdire, c'est juste proposer des choses mieux. Et s'il y a de l'interdiction à un endroit, parce que prendre l'avion tous les week-ends pour tout le monde, bah, c'est techniquement pas possible. Bah, peut-être que c'est une interdiction qui permet de proposer des expériences alternatives qui sont trop chouettes. Et ouais, j'avais beaucoup aimé son profil à elle et puis la ville de Laval, c'est sympa de visiter.
Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot pour tous les jeunes, même les générations plus âgées qui nous écoutent, pour finir ?
Ben, mon mot, il est déterminé. En fait, je suis toujours partagée, j'ai deux jambes. J'ai une jambe qui est très dans le doute, dans l'accueil des émotions, dans la capacité à me connecter à la tristesse quand j'en ai, et une autre jambe qui est là le lendemain ou l'heure d'après qui dit « ben, on y va quand même ». Et voilà, chacune a probablement deux jambes avec deux émotions différentes ou deux polarités différentes. Connectez-vous à ces différentes parties de vous pour à la fois être en conscience de ce qui va pas dans le monde et en même temps toujours être tourné vers l'action et le mouvement. Parce que c'est ça qui fait qu'on reste aligné et heureux. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis à un moment de ma vie où même si c'est un peu brouillon pour moi la suite et que je suis très touchée par tout ce qui se passe dans le monde, bah, j'arrive quand même à être dans la joie et à être heureuse de ce que je vis avec mes proches, mon amoureux, ma famille, mes copains, sur la scène quand on m'invite. Et voilà, tout est possible, tout peut cohabiter.
Et bah merci beaucoup Claire d'avoir participé à cette émission. Elle sera du coup à retrouver en podcast sur notre site. Bonne journée sur les ondes de Z.